Je viens de faire une grande balade en vélo et j'éclatais de rire en disant « On a encore le cul dans les ronces !» Et je me pouffais de rire. Oh, ça fait du bien. Et puis alors l'expression, elle vaut la peine quand même. Hein, elle vaut le coup. Bonsoir et à lundi. Ciao.
ST Microelectronics, ah la stupeur. Le conte de fées de la valeur ajoutée technologique tombe à l'eau. On se rend compte que les Asiatiques sont aussi intelligents que nous. Oh, quel drame! Autrement, les ingénieurs qui ont eu leur petit réveil politique, parmi eux, combien d'entre eux lorgnaient et fantasmaient sur les stocks options? Combien d'entre eux faisaient circuler des blagues sur les fonctionnaires? Moi, j'aimerais bien savoir.
Bon, je téléphone à propos de l'émission d'aujourd'hui sur les ingénieurs, la crawl, tout ça. Il y en a un qui a bien dit la vérité. Ça y est, ils commencent à se rendre compte qu'eux aussi sont victimes du grand capital, c'est-à-dire des gens qui ont besoin de sous, qui ont 20 centimes, qui en veulent 30, quand ils en ont 30, ils en veulent 40, et ainsi de suite, etc. Ça y est, enfin, ils prennent conscience qu'eux aussi sont jetables, comme des Kleenex, comme les petits ouvriers, comme les petits OS, comme les petits manœuvres, comme les petits rien du tout, qui remplissent encore les soutes de la NPE. Il y en a encore la 427, là, je sais plus quelle entreprise j'ai entendu tout à l'heure. Eh bien, je crois que Monsieur de Villepin a du boulot à faire. Il a plus 100 jours, moins 27, je sais plus, ça doit faire 73 jours. Il lui reste 73 jours pour redresser la barre.
C'est Karine Gorène. En fait, je viens d'écouter votre émission sur STM tout à l'heure et je dois dire que j'étais assez choquée. Il a fallu attendre 17h30 pour que vous mentionniez la fermeture de l'usine de Rennes. Et dans quels termes? 600 emplois ont été supprimés dans une entreprise qui fait des bénéfices énormes et qui a bénéficié d'aides d'État non moins énormes. Fermeture contre laquelle les salariés ont lutté pendant un an et rejoint par les habitants. Ils ont organisé la résistance autour d'une tente à poste devant une grille de l'usine. Il faut savoir que l'usine, en fait, est dans la ZUP. Elle est au pied des immeubles. Un an durant lequel les salariés ont été méprisés, tant par la direction que par les pouvoirs publics impuissants. Un an durant lequel les salariés ont vu les cloisons de leur usine, mille fois plus propres qu'un hôpital, cassées à coups de masse. Un an durant lequel ils ont vu leurs machines, leurs outils de travail, démontés, embarqués par les camions de déménagement, encadrés par les CRS envoyés par la préfète, Madame Malgorne. Les CRS qui n'ont pas hésité à utiliser matraque, gaz lacrymo contre des salariés désespérés et des habitants solidaires. Un an de lutte durant lequel les salariés se sont rendus sur les autres sites testés, en particulier Crawl et Tours, pour les alerter. Une année de lutte syndicale, une année de lutte judiciaire aussi, avec l'aide de l'avocat Maître Brun que vous connaissez. Une année qui laisse des traces. Un exemple de reconversion, si ça vous intéresse, quelques-uns des salariés sont aujourd'hui payés au SMIC pour lire les plaques d'immatriculation sur les écrans qui diffusent les photos prises par les radars automatiques autour de Rennes. Alors j'ai rien contre ceux de Rennes qui sont allés à Crawl ou à Tours, parce que l'usine a fermé, je les comprends, mais vous pouvez pas éluder toute cette lutte. Je fais pas partie des ST, mais je peux vous dire que ST, c'est pas la première fois qu'on en entend parler.
Malaise, malaise durable, malaise profond, qui s'exprime sur le répondeur de l'émission. Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Malaise de cette insécurité sociale, encore une fois, profonde, qui touche toutes les couches de la population, toutes les couches des emplois, toutes les couches des salariés. Et là, avec le reportage de vendredi sur la menace de licenciement qui pèse sur l'entreprise STM Electronics à Grenoble, on a eu beaucoup de réactions de gens qui disent « Mais alors, attendez, maintenant, ça y est, vous faites du souci pour des gens qui sont des cols blancs, bien payés, etc. » Eh ben oui, 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 qui sont atteints à leur tour par ces délocalisations. On en a déjà parlé, c'est pas entièrement nouveau, mais ça se généralise. C'était pas une bavure, un accident. Aujourd'hui, ça se systématise. Aujourd'hui, on va partir dans une toute autre direction. On va retourner au Rwanda. L'an passé, vous avez présenté une série de reportages sur pour le 10e anniversaire du génocide du Rwanda. Et on s'est dit, pourquoi pas 11 ans? Pourquoi pas toujours ces chiffres ronds? Et on va retourner à Bicesero. Bicesero, pour les Rwandais, c'est vraiment un mot d'une force extraordinaire. Bicesero, c'est le lieu de la résistance à la destruction. Il y a eu des résistances tout au cours du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994, mais dans très peu de lieux, il y a une résistance aussi longue, aussi organisée que celle de Bicesero. Ça nous intéresse à ce titre-là, et puis aussi parce que à Bicesero, il y a là, une fois de plus, le thème de l'implication française dans ce génocide du Rwanda. Aujourd'hui, on voit que les Nations Unies vont demander à la France de juger des suspects du génocide de Rwandais. On n'en a pas fini avec cette histoire. On n'en a pas fini avec l'implication et les responsabilités de la France dans ce génocide. Et à Bicesero, il y a eu une implication de l'armée française. Ça avait fait l'objet, souvenez-vous, du livre de notre confrère Patrick de Saint-Exupéry, dont nous avions parlé, L'Inavouable, la France au Rwanda. C'était publié l'an passé aux éditions des Arènes. Bref, nous allons aujourd'hui à Bicesero rendre hommage à ceux qui se sont battus et qui sont encore là parmi nous pour témoigner. C'est notre thème du jour. Auparavant, un autre message. Un seul, mais vous allez
Salut,
voir.
Salut, là-bas, si j'y suis. Ici, c'est les opposants aux nécrotechnologies grenobloises. C'est-à-dire que nous, on vit à ST Microelectronics Land. Et on voulait apporter quelques informations sur ST Micro, sur ce que produit réellement cette boîte. Alors, à l'origine, c'est une start-up du commissariat à l'énergie atomique à Grenoble. Et d'abord, pour en finir un peu avec ce mythe de l'emploi, ici, la direction départementale de l'emploi elle-même explique qu'il y a eu très peu de création d'emplois à ST Grenoble, mais c'est surtout des mutations, et notamment des mutations d'ingénieurs américains, pour qui on a même créé une cellule spéciale en préfecture qui facilite leur obtention de papier, ce qu'on fait pas pour tous les étrangers. Ces mutations, elles ont un effet direct ici, outre le fait qu'elles transforment la vallée en Californie. Elles font exploser le prix des logements et elles ont obligé un tas de petits gens à fuir jusqu'à 50 km à la ronde parce qu'ils peuvent plus se loger ici à cause de l'augmentation des loyers. Et puis, au nom de l'emploi, c'est toute une vallée magnifique, le Grésivaudan, qui a été complètement détruite. Une vallée avec des terres agricoles, des cultures, des vignes, etc. Maintenant, c'est des autoroutes et des échangeurs. Il faut savoir aussi que ST Micro pompe des quantités effarantes d'eau potable dans la région, 700 mètres cubes d'eau par heure, y compris pendant la sécheresse et la canicule, qu'elle oblige les collectivités locales à doubler les conduites d'adduction d'eau et que les collectivités, elles sont soumises à des amendes de 150 000 euros par heure en cas de défaillance dans la fourniture de l'eau. Donc c'est vraiment la soumission des élus, toujours au nom de l'emploi. Le site de Kroll, c'est un site Céveso, ça utilise et ça stocke des gaz de combat très dangereux, comme l'arsine par exemple. Et une question, pourquoi les mômes de la crèche voisine à Kroll ont-ils des affections inexpliquées? C'est une question qu'on se pose. Et tout ça pour fabriquer quoi donc? Des puces. Et ces puces, elles servent à la quincaillerie électronique dont on est envahi aujourd'hui. Ça moncelle dans des décharges de déchets high-tech dont on sait pas trop bien comment s'en débarrasser. Et puis surtout, ce qu'on oubliait de vous dire, les employés de ST Microélectronique, c'est que leur boîte, elle est en pointe dans des systèmes qui inquiètent un peu beaucoup de monde aujourd'hui, des systèmes de traçabilité et de flicage, il faut le dire. La biométrie, les puces à radiofréquence lisibles à distance, toutes ces choses-là, notamment qu'on promet de nous mettre dans une future carte d'identité électronique, ST Micro, c'est un des leaders sur ces systèmes-là. Donc en bref, ST Microélectronique, ça détruit notre région, ça alimente la surconsommation de gadgets, ça contribue au contrôle des populations. Alors désolé, mais nous on peut pas pleurer sur la fermeture des postes ici, on peut juste être solidaire des Asiatiques qui vont se récupérer une bonne partie de ces nuisances. Et voilà, on voulait juste dire qu'on ne peut pas tout justifier au nom de l'emploi, que nos vies valent plus que nos emplois. Et au fait, avez-vous des nouvelles de la marche de la décroissance ? À bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Guy Vanctil, Bicécéro, Rwanda.
Flight number 2, arriving from New York.
Comment veux-tu que j'oublie avec toutes ces cicatrices? Tu vois ce qu'ils m'ont fait? Comment veux-tu que j'oublie? Je ne peux pas. Je ne peux pas oublier ça.
Quand ils sont arrivés, les Français, ils nous ont dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de tuer les gens? Nous sommes venus, nous leur avons montré les cadavres, les corps. Nous leur avons montré ce qui s'était passé ici. Alors ils ont fait demi-tour. Et quand ils ont fait demi-tour, les Hutus nous ont massacrés ici. Alors ils sont revenus, l'armée française est revenue en force, après, pour constater, ce n'était que des cadavres. Des corps jonchaient cette colline que tu vois ici. Pourquoi vous venez demander des informations? Vous demandez ce qui s'est passé alors que vous savez ce que vous avez fait. Pourquoi?
Est-ce que j'étais là, moi?
Si
c'est pas toi, c'est ton oncle ou ton, ou ton cousin.
Très encombrant et très gênant la question pourquoi vous venez poser des questions après ce que vous avez fait. À qui on parle? On parle à Guy Vanctil, qui est français, et on lit pas en tant que français ce que vous avez fait, vous les Français. C'est lourd, hein, ce soupçon, cette accusation, lorsque elle est proférée par des survivants, des rescapés d'un génocide, celui du Rwanda. 800 000, 1 million de morts, on ne sait toujours pas exactement, en 100 jours, sans que personne ne bouge. Nul n'a bougé pendant les 100 jours de ce génocide qui a vu la mort des trois quarts de la population Tutsi du Rwanda et des Hutus modérés qui s'opposaient à la destruction massive, organisée depuis longtemps, préméditée, et qui s'est déroulée implacablement comme l'on sait, 100 jours. Y a-t-il eu des résistances? On l'avait vu l'an passé à travers les témoignages de ceux de Niarobouyé. Oui, il y a eu des résistances. Oui, il y a des paysans, des habitants qui se sont regroupés, qui ont essayé de se battre à main nue avec des pierres, avec des bâtons contre ceux qui arrivaient vers eux, organisés, encadrés, équipés, armés, et pas seulement de machettes. Parfois c'était des fusils d'assaut, parfois c'était des grenades. Tout ça était organisé. Mais il y a eu des résistances quand même. Mais aucune comme celle de Bicécéro. Bicécéro, c'est sur la côte, c'est au bord du lac Kivu, c'est à l'ouest du Rwanda, et là, près de 50 000 personnes, 50 000 Tutsis ont été tués au cours de cette, au cours de ce génocide. Ils s'étaient regroupés là, ou bien ils étaient des habitants de Bicêtre, ou bien ils venaient d'autres lieux de massacre, d'autres lieux de tuerie auxquels ils avaient échappé, espérant trouver là un havre. Et c'était pas mal vu, puisque dans les épisodes précédents, dans les massacres précédents, 59, 62 et d'autres, effectivement, Bicêtre avait résisté. Les habitants de Bicêtre sont des résistants. On a voulu, avec Guive, leur rendre hommage, d'abord, et savoir ce qui s'était passé, comment ils avaient résisté, et comment l'armée française... ils vont nous le raconter, on aura des documents, des témoignages de journalistes, de chercheurs, et puis à commencer évidemment par ceux de ces rescapés, pour nous dire la responsabilité, l'implication de l'armée française dans les massacres de Bicêtre. Mais d'abord, hommage à la résistance. Tout comme il y a eu le soulèvement du ghetto de Varsovie, ou les mutins de 17, ou l'affiche rouge, sont des lieux, des symboles où des hommes ont sauvé quelque chose de l'honneur des humains. Eh bien, Bicêtre en fait partie. C'est jusqu'à 18h dans la base jésuite.
Alors là, c'est vraiment un paysage de carte postale. C'est bizarre de dire ça en plein Rwanda, mais il y a un côté suisse. On est en haut de toutes les collines. Pour venir jusqu'ici, on a fait des heures de piste à zigzaguer, en monter, à descendre sur des petites routes. Et on est arrivé tout en haut. On est près du lac Kivu, et là, il y a une vue grandiose sur ce lac, avec ces collines vertes, 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 qui dégringolent jusqu'au bord de l'eau. Et sur la route, on a croisé des paysans, avec des petites bêches, avec des serpettes. Et tout d'un coup, on arrive... un monument construit en dur, alors que toutes les maisons aux alentours, c'est des baraques, c'est des petits cabanons, c'est des toutes petites maisons en torchis, parfois un toit en tôle, la plupart du temps des toits en paille, avec leurs petits lopins de terre. Et là, c'est une espèce de bâtiment en briques, qu'on voit de loin parce qu'il y a tout un côté qui est peint en violet, tout un côté en blanc et tout un côté en noir, avec une espèce d'arche. Et c'est le monument de Bicêtre à la résistance acharnée de toute la population Tutsi de la région, où ils sont d'ailleurs majoritaires, qui se sont regroupés sur cette colline de Bicêtre et qui ont repoussé jour après jour, avec à chaque fois des pertes colossales, qui ont repoussé, dit-on, avec des pierres et des bâtons, les miliciens Interahamwe, les gendarmes, l'armée rwandaise qui venait pour finir le travail et pour essayer d'effacer cette dernière poche de résistance.
Jamais on mesurera tout à fait ce qui s'est passé au Rwanda. Ceux qui, parmi les journalistes qui étaient là au moment du génocide, ou ceux qui s'y sont ensuite intéressés, sont hantés par ce qui s'est passé là-bas. Et bien sûr que le contact qu'on peut avoir avec les rescapés et trouble très profondément, plus que profondément, lorsque des rescapés disent, tu sais, je préférerais mourir plutôt que de continuer à vivre avec ce que j'ai dans la tête ou ce que j'ai dans le cœur. On dit, bon, c'est une déprime, il faut se réconcilier, il faut reprendre le dessus, ça va pas durer, etc. C'est des phrases obscènes, celles qui disent, il faut vous réconcilier, il faut la paix maintenant. On ne mesure pas bien ce qui s'est passé là-bas. 10 ans, 11 ans après, on n'a pas commencé de faire le tour de cette catastrophe, de cette véritable catastrophe. Et pourtant, une fois de plus, et il nous faut essayer de comprendre, essayer d'appréhender, essayer de mesurer, et à commencer évidemment par écouter.
Je m'appelle Karamaga Simeo. Je suis agriculteur. J'ai 60 ans. Je suis agriculteur, mais maintenant, Je n'ai plus de force pour continuer. Maintenant, je ne parviens plus à travailler. Je suis vieux. On m'a frappé, on m'a lancé des pierres. Maintenant, je quémande, en fait.
Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est passé ici, à Bisesero?
Les Hutus ont tué
les enfants, ils ont tué des bébés, ils ont tué des femmes, ils ont tué des vieux.
Qu'est-ce qu'il dit?
Il est en train de me dire pourquoi, quand il t'a vu, il me dit pourquoi vous amenez un Français ici? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il dit, je ne comprends pas. Il dit, pourquoi tu peux venir ici? Après ce qui s'est passé en
94.
Quand les Français sont arrivés ici, c'était des sauveurs.
On
les considère comme des sauveurs. Nous sommes sortis des buissons, des trous, là où on s'était caché. Nous sommes allés vers eux. Ils nous disaient qu'ils venaient nous protéger, qu'ils venaient nous sauver. C'est ce qu'ils nous disaient.
Quand
ils sont arrivés les Français, ils nous ont dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de tuer les gens? Nous sommes venus, nous leur avons montré les cadavres, les corps. Nous leur avons montré ce qui s'était passé ici. Alors ils ont fait demi-tour. Quand ils ont fait demi-tour, les Hutus nous ont massacrés ici. Alors ils sont revenus, l'armée française est revenue en force, après, pour constater, ce n'était que des cadavres. Des corps jonchaient cette colline que tu vois ici.
Ils
sont venus lundi. Ils sont repartis. Ils sont revenus jeudi. Ils sont revenus quand on était tous morts. Alors, qu'est-ce que vous venez faire ici? Puisqu'il n'y a plus que des os.
Il
veut te montrer les restes.
Alors allons-y.
De quoi?
Allons voir. C'est une petite baraque en tôle avec une vieille porte et un vieux. Ah oui, c'est un. Un vieux verrou artisanal et on rentre. Des bâches. Et voilà. Comme à Nyarubuye. Comme dans plein d'endroits au Rwanda, 10 ans après. Des tables où sont entassés des crânes, perte de vue, des dizaines, des centaines de crânes, de toute taille, des petits, des grands, des enfants. On voit tout de suite que c'est des enfants. Et à droite, c'est des os, des fémurs, des tibias, empilés consciencieusement, proprement, en 3 rangées. Et voilà. Il fait chaud en plus. Il y a cette odeur dans l'air. Et on voit distinctement sur les crânes qui sont posés là des entailles, des coupures, ou des carrément des gros trous. Par exemple, celle-là, cette table-là, il y en a combien? Là, juste devant moi, il y a une table à vue de nez, il y a 300 crânes. Et à côté, il y en a encore plus de l'autre côté. Une espèce de petite nécropole, un ossuaire.
C'était nos enfants, c'était nos femmes. C'était nos parents. Tout ce que tu vois ici, ce sont les restes de nos familles. Tu vois, moi j'ai 60 ans. Je n'ai pas d'enfants maintenant.
Je n'ai plus
d'enfants, je n'ai plus personne. Mes enfants sont ici, ma femme est ici, mon père est là, ma mère est ici. Il n'y a plus que moi.
Et par la petite fenêtre, on voit le lac qui vous et les collines.
Je suis comme un arbre sans branche. Il faudrait traduire exactement, on est obligé de traduire immédiatement, mais il faudrait traduire plus lentement. Et ça a été la force du livre de Jean Hatzfeld, par exemple, ou de ceux qui ont pu traduire cette langue très riche, très imagée, qui est le kinyarwandais. Je suis comme un arbre sans ses branches. C'est une expression comme ça, courante, qui dit un peu ce qu'est la mémoire des rescapés. Des rescapés qui, évidemment, le génocide est utilisé à des fins politiques actuellement par le gouvernement rwandais, comme c'est toujours le cas, on ne manque jamais d'exploiter à des fins politiques les martyrs d'un peuple, ou des grands massacres. Pour autant, les rescapés n'ont pas la place qu'on pourrait supposer qu'ils ont dans ce pays. Leur souffrance est très grande, leur solitude aussi, et leur vie est très très difficile et dangereuse, parce que un certain nombre d'entre eux ont témoigné, et ils sont menacés par les tueurs, par les assassins, quand ils sont libérés, si toutefois ils n'ont jamais été incarcérés ni menacés. Et il y a pas mal de morts comme ça, de rescapés qui ont témoigné, qui meurent subitement, curieusement, par empoisonnement ou par d'autres moyens. Donc ils vivent avec ce risque, et puis évidemment avec tous les souffrances des rescapés qui sont d'avoir vu et d'avoir survécu et de se sentir coupable d'être toujours vivant. Ceux de Bicécéro, c'est autre chose. La mémoire, le témoignage qu'ils portent est celui d'une résistance. Ils ont résisté et ils ont organisé cette résistance. Donc à partir du déclenchement du génocide qui commence avec l'attentat contre l'avion du président à Biarimana le 7 avril 1994, à partir de là, tout va se déclencher. Ce plan de destruction massive est, on le sait, et vous le savez aussi, au point depuis longtemps, des documents, des avertissements ont été donnés à la communauté internationale, notamment à la France, mais aussi bien aux Nations Unies, sur le risque d'une telle dérive, d'une telle catastrophe. Et pourtant, les massacres se mettent en place, vont gagner peu à peu tout le pays. Et encore une fois, il faut le dire et le redire, durant 100 jours, personne ne bougera. La communauté internationale ne bougera pas. Ordre sera même donné que le mot génocide ne soit pas employé, notamment au niveau des Nations Unies. Et vous vous souvenez du témoignage, évidemment, par exemple, du général Dallaire, qui était venu témoigner dans notre émission, mais pas seulement chez nous, pour dire comment responsable des casques bleus des Nations Unies, avait attendu des consignes et des ordres pour intervenir, car il était très très facile d'intervenir pour des militaires et des armées équipées, modernes, dans ce massacre qui a eu lieu avec des machettes, avec des bâtons, avec des serpettes, avec des gourdins, un génocide de pauvres contre des pauvres.
Je m'appelle Nagani.
Vous aussi, vous étiez là. Vous aussi, vous faisiez partie de ceux qui combattaient pour survivre.
Oui.
Racontez-nous alors. Comment ça a commencé après l'assassinat d'Abiyarimana et comment les massacres ont commencé?
Abiyarimana twabyumvise ku itariki ya 7 z'ukwa 4 mu gitondo ko yarapfuye itariki ya 8 z'ukwa 4 94.
C'était le 7 avril 1994. C'est là où nous avons entendu que Abiyarimana est mort.
Ku itariki ya 8 z'uko kwezi kwa 4 ubwo nta mutongeye kuvugana n'umututsi.
Le 8 avril 1994, les Hutus ont cessé de parler aux Tutsis chez nous. Quand ils ont commencé, d'abord à piller. Ils ont pris toutes nos vaches. Nous sommes des éleveurs. Ils ont pris les vaches, ils ont brûlé les maisons, ils ont pillé tout ce qui était dans nos maisons.
Après ça,
quand les massacres ont commencé, ils ont commencé par des vieux, les femmes et les enfants. En fait, ils ont commencé par des gens qui ne pouvaient pas courir, qui ne pouvaient pas se sauver, qui n'avaient pas de force. Nous sommes des rescapés. On a pu se sauver parce qu'on était encore jeunes, on avait de la force pour courir et nous défendre.
Nous
étions autour de 12 à 15 000 hommes. Nous étions sur la commune, sur une colline de Muyira. C'est juste à côté. Quand ils venaient, quand ils nous attaquaient, en fait, on essayait de se défendre. On ne pouvait plus se sauver. C'était nous défendre. On se battait.
En fait,
les Tutsis de Rwamatamu, de Yiterezi, de Mabanza, tous, ils étaient concentrés ici.
Toutes les collines environnantes.
Tous les Tutsis des collines environnantes. C'était rassemblé ici.
Pourquoi ici?
C'est en fait parce que nous étions des vaillants guerriers. En 62, en 59, personne, aucun Hutu ne pouvait venir nous attaquer ici. Nous étions des légendes vivantes.
Et avec quoi vous vous battiez alors?
Moi j'utilisais mon bâton.
Et voilà Siméon qui prend la pause et qui se met face à moi avec son bâton. Et voilà, il mime devant les uns et les autres, comment on se bagarre avec son bâton. Mais il fait un peu peur parce qu'il est énervé. Il faut pas. Attention, Alors, vous racontiez 9 avril. La première attaque.
À partir du 9 avril 1994 jusqu'au 30 juin 1994, tous les jours il y avait des attaques. Tous les jours.
Ils vont me dire leur nom, comme ça on entendra le nom des héros en France. Siméon.
C'est Véron Antoine. Bunyanzi François.
C'est Nere Siméon.
Voilà l'Alsis.
Est-ce qu'il y a Marcel?
Ouais, Saint-Gaster.
Vézimou Siméon.
Et toi, tu es la jeune fille, tu étais là aussi?
Oui, j'étais là.
T'es une des rares survivantes femmes, et c'est vrai que t'as le visage cabossé. Au-dessus de l'arcade, une grande entaille. Au-dessus de l'autre arcade, un trou. Et on me dit derrière, là aussi. Ah oui, là, c'est carrément des énormes cicatrices, juste sur la nuque. Là, tu as quel âge maintenant?
J'ai 18 ans.
Donc, t'as 8 ans.
Les Français sont arrivés, ils sont sortis des brousses, des trous, et ils sont repartis, alors qu'ils savaient très bien qu'ils étaient menacés. Alors, ils ont perdu tout ce qui restait, les survivants, il y avait autour de 5000.
C'est-à-dire pour les soldats français, à la rigueur, ça peut être non-assistance à personne en danger, mais pour eux, c'est de la trahison, pour eux, c'était un piège, parce que quand ils ont vu les Français arriver, ils sont tous sortis de leur cache, ils sont tous sortis de leur trou, ils sont mis à découvert, et les Français sont disant, oh, on va chercher de l'aide. Ils sont partis pendant 3 jours, et ces 3 jours pendant lesquels tous les miliciens, tous les interamoués qui étaient là ont pu massacrer à souhait les derniers survivants. D'après les estimations, il restait encore 3000 personnes, et 3 jours après, il n'en restait plus que 1000. Et c'est pour ça qu'ils nous en ont voulu, c'est pour ça qu'ils nous ont mal accueillis. C'est pour ça que Siméon disait « ça me fait mal au ventre de savoir que vous soyez français ». C'est parce que pour eux, c'est pire encore que les meurtriers, que les génocidaires ou tout, parce que ces génocidaires-là, ils savaient qu'ils avaient en face, ils savaient que c'était des gens qui étaient là pour les tuer. Pour eux, c'est comme une trahison, alors qu'ils attendaient des sauveurs qui ont tourné les talons et qui les ont laissés à découvert avec leurs bourreaux. Voilà pourquoi ce ressentiment. Voilà pourquoi le temps qu'il a fallu avant qu'on nous parle, avant qu'on nous raconte cette histoire, sans commencer par la fin, c'est-à-dire sans commencer par l'opération turquoise qui a failli et qui a laissé ces derniers résistants être décimés alors que les combats touchaient à leur fin.
Voilà ce qui s'est passé à la fin de Bicécéro, à la fin de ces semaines de résistance, de combat organisé. C'est une résistance organisée. Je rappelle que c'est le thème du bouquin de Saint-Exupéry, de Patrick de Saint-Exupéry, L'Inavouable. Je rappelle que ce livre dont on avait parlé l'année dernière démarre sur une colère de notre confrère Patrick de Saint-Exupéry qui, je sais pas où il est dans le monde, écoute Radio France Internationale et entend notre actuel Premier ministre, Monsieur de Villepin, parler des génocides rwandais, les génocides rwandais. Et c'est ça qui va être le départ du livre de Saint-Exupéry. Mais c'est ça qu'il faut comprendre sur Bicécéro, c'est que à la fin juin, alors qu'il ne reste plus que 2000 rescapés, il y a eu jusqu'à 50 000 personnes regroupées à Bicécéro, il n'en reste plus que 2000 encore en vie dans un état de physique terrifiant, et ils sont cachés dans les fossés, dans les fourrés, et ils voient arriver des militaires français, et ils se précipitent vers eux en disant sauvez-nous, aidez-nous, on nous massacre, on nous a massacrés, et ils donnent des preuves. Il montre des blessés, il montre des cadavres, il montre ce qui se passe. Il fallait vraiment être aveugle pour ne pas le voir, d'ailleurs. Et les militaires leur disent, ok, on va revenir dans 3 jours. Mais pourquoi 3 jours? Pourquoi pas tout de suite? Alors l'un des militaires dira, ah, on a consigne de ne pas se mêler de politique. De ne pas se mêler de politique, comme s'il s'agissait de politique, alors que on est en présence d'hommes, de femmes et d'enfants dans cette situation. Et évidemment, les résistants de Bicécéro sont pour l'occasion sortis de leur cachette, puisqu'ils ont parlé avec les militaires français, et désormais leurs assassins, les Inaramoé qui sont là, les ont vus et vont les massacrer sur les 2000 qui restent encore, et il n'y aura que, après cet ultime massacre, on évalue à peu près à 800 rescapés. Donc là, il y a une vraie implication de la France, une irresponsabilité de la France. Ça veut pas du tout dire de tous les Français, mais ça c'est pas facile à faire comprendre à travers le monde. C'est comme ça, nous portons la responsabilité de ce qui a été fait en notre nom au Rwanda.
Vous écoutez la radio-télévision libre des mines communes dans notre blindé. Nous sommes obligés désormais d'émettre.
Namabisi bakaza
le gouvernement avait mis à la disposition de ces tueurs. Il y avait des bus qui transportaient tous ces tueurs qui provenaient des communes et des préfectures environnantes. De Gisovu, du Kongoro, même Gisenyi.
C'est-à-dire qu'ils faisaient des heures de route pour se regrouper, pour venir jusqu'à ici.
Exactement. Il venait en chantant Pawa, Pawa, Pawa. Pawa, c'était la force. Supprimer, tuer les Tutsis.
Pawa, Pawa, Pawa. Pawa, Pawa.
Pourchassons-les, tuons-les, exterminons-les. Pourchassons-les dans la brousse. C'était les slogans.
Et ils arrivaient comment? Alors comment ça se passait, une attaque?
Ils attaquaient à l'aube, à 5h30 du matin, 6h. Ils venaient très très tôt pour nous surprendre.
Kuza kwabo ubwinshi bwabo bahanaga amasinyi kugira bataza kwicana nawe.
En fait,
ils venaient nombreux, ils se donnaient des consignes pour ne pas s'entretuer. Ils ne pouvaient peut-être pas se reconnaître parce qu'ils venaient des communes différentes. Les Hutus de Rwamatamu, ils avaient une tige de café. Les Hutus de Gishita avaient une feuille de bananerie. Ceux de Gitesi avaient des eucalyptus.
C'est que des plantes qu'on a vues sur la route en venant ici.
En fait, notre objectif, c'était de nous mélanger avec eux. On ciblait des attaques où il y a moins de gens et on les attaquait. On se mélangeait avec eux, on tuait quelques-uns parmi eux. Et ils pouvaient pas continuer à nous attaquer parce qu'on s'était mélangé avec eux. C'était chaque fois comme ça.
Quand ils devenaient
plus nombreux, quand les attaques devenaient plus violentes, on reculait, on se cachait dans la brousse, mais on ne restait pas longtemps. Il fallait toujours être regroupé. C'était la seule façon de survivre. C'était une moyenne de 3 à 4 attaques par jour. C'était tous les jours, même samedi, le jour de prière pour les adventistes, ils n'arrêtaient pas, ils attaquaient. Les dimanches, ils n'allaient pas prier, ils n'allaient pas à la messe, ils attaquaient, ils travaillaient, comme ils disaient.
Et alors ils arrivaient, ils étaient armés comment?
Ils avaient tout.
Là vous décrochez là, une espèce de matraque de gourdin, c'est une racine. C'est une racine avec des gros clous, mais des clous de charpentier quoi, des clous énormes qui sont plantés dedans, une espèce de gourdin.
En fait, il fracassait avec ça sur le crâne.
Et là, vous nous montrez un crâne là, qui est parmi les centaines de crânes qui sont derrière nous, où il y a juste au-dessus de l'œil un énorme trou. Et encore un autre là-bas. On voit effectivement que c'est fracassé. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, et des dizaines de crânes.
Ils utilisaient des grenades stream. Ils avaient même des anti-tanks.
Et vous aviez quoi comme arme?
Nous avions que des bâtons, mais c'était des bâtons. Nous avions aussi des lances, quelques lances et quelques arcs. On prenait des pierres, on lançait des pierres, on visait les crânes. Et des fois, on prenait même les armes à ces militaires. Nous avons pris 17 armes. Malheureusement, personne ne savait manipuler une arme. Quand il y avait une attaque importante, nous, on visait celui qui avait une arme. On essayait de se rapprocher de lui pour essayer de le faucher et de prendre l'arme. En fait, les gens ciblaient celui qui avait une arme pour mourir d'une belle mort. Parce que vaut mieux mourir à coups de balle plutôt que de recevoir plusieurs coups de machette. Quand ils pouvaient faucher quelqu'un, un des valeureux guerriers qu'on avait, qui savait qu'il était un guerrier, ils le tuaient à petit feu. Il commençait par les jambes, les bras, puis la tête après. C'était 4 jours.
Et on sort de cet ossuaire, et on sort de cette ambiance de mort pour voir ces paysages encore magnifiques. Le lac qui vaut au loin, avec les nuages qui moutonnent au-dessus, les bananeraies en contrebas, et les vaches, et puis ces fermiers, ces pasteurs d'ici, avec leurs bâtons, tous avec leurs bâtons, leurs bottes et leurs chapeaux.
Le désarroi qui nous saisit au Rwanda, ou pas seulement au Rwanda, en écoutant ce qu'on entend là, c'est l'idée d'un échec, d'une faillite totale. C'est-à-dire que nous n'aurions pas su tirer les leçons, les enseignements des massacres précédents, des génocides précédents. Nous n'aurions pas compris, nous n'aurions pas réussi à tirer ce que ces génocides pouvaient avoir d'universel, de leur capacité de se reproduire ailleurs sur d'autres groupes humains et de les prévenir. Et pourtant, des lois ont été votées, des accords ont été signés entre les nations, au niveau précisément des Nations Unies, pour prévenir de telles éventualités, et ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des refus, il y a eu des blocages, il y a eu des lâchetés, il faut bien quand même commencer à employer les vrais mots, et qui sont largement impunis aujourd'hui, mais qui ne nous angoissent pas plus que ça, qui ne nous inquiètent pas plus que ça, pour l'instant. Espérons que par la suite, on va pouvoir peu à peu débloquer les terreurs, les chantages, les intérêts personnels des nations, des États, des pouvoirs, pour atteindre à une, non pas sans doute à une vérité, mais à quelque chose qui pourrait être peut-être utile pour le futur. C'est on a envie de dire des choses comme ça, et quand on entend ces hommes qui racontent et qui nous regardent.
Siméon Karamaga.
Ego.
Quel était votre rôle à vous?
C'est moi qui commandais tous ces gens-là, tu vois. C'était le commandant. J'étais le plus âgé. C'était moi qui devais commander. Et puis j'avais une expérience, vu les expéditions des années antérieures. Moi j'ai refusé complètement qu'on me mette la machette sur mon cou. Alors je me défendais avec mon bâton. Je frappais.
Et là, Siméon fait les gestes encore avec son bâton qu'il brandit. Et il fait la grimace qui va avec, vachement effrayante. Il les brandit au-dessus de sa tête et paf, il le fait balancer et poum, ça touche la tempe de Maurice.
Je frappais sur les coups, je visais les coups avec mon bâton.
Ah,
j'étais encore fort, jeune. Personne ne s'approchait de moi, personne. Jamais.
Tout le monde se marre parce que nous on a peur, quoi. Il nous fonce dessus avec son bâton, il arrête à 2 cm de notre tête. Et là il recule encore, il prend de l'élan. Et voilà, il prend une pierre.
Je prenais les pierres, je lançais.
Non. Là c'était par là-bas. Il m'a fait peur, là. Il nous mime le geste. Ils sont tous morts de rire, les paysans derrière avec leurs bâtons. Et les femmes et les enfants, eux, ils ramassaient les pierres pour vous, ils vous faisaient des munitions de cailloux.
Les femmes et les enfants ramassaient les pierres et ils nous donnaient. C'était leur rôle, ramasser les pierres le plus possible.
Hélas, on a en face de nous des paysans tout paisibles, assis dans l'herbe, sans chaussures, certains, d'autres des petites bottes en caoutchouc, très pauvres, avec des vieux vêtements, et puis ils sont là devant cet ossuaire. Et quelles étaient les consignes que vous donniez, Siméon, à toutes ces personnes? Combien de personnes vous disiez là, à qui vous donniez des ordres?
Tous ces gens que tu vois là, c'était moi le chef. D'autres qui sont restés sur le champ de bataille. Plein qui sont morts. C'est moi qui... J'allais devant eux, je lui disais, venez, suivez-moi.
Il nous fait le geste là.
Suivez-moi. Je n'avais pas peur, c'est moi qui allais devant. Je lui disais, venez, attaquons. Je fonçais. Ils ne pouvaient pas s'approcher de moi, ceux qui avaient des machettes. Personne ne m'attaquait. C'était des lâches, ils utilisaient des pierres. Ils m'attaquaient.
Je suis en train de me rendre compte que tous les hommes là qu'on voit devant nous, tous les paysans, en regardant petit à petit, on s'aperçoit qu'ils ont tous des cicatrices. Là.
Des cicatrices partout.
Partout, là, je vois le jeune homme qui est là, il a une grande entaille sur la main. Tout à l'heure, il y en a un autre qui a une béquille, là, qui marche avec une béquille en boitant. L'autre qui en avait une autour du cou, la femme qu'on voit là-bas, là, qui en avait une derrière l'oreille. Tout le monde a marqué dans sa chair.
Merci à tous, merci à Simeon Karamaga, Zachary, Afrimoun, Antoine, François, Narcisse, Aster, Naganir, Alice, Alexis et tous ceux de Bicécéro, à lire un livre de notre consoeur Laure de Vulpian de France Culture sur ce thème et le livre de Patrick de Saint-Exupéry que j'ai cité tout à l'heure, L'Inavouable. Traduction Maurice Niarou-Irira, montage Raphaël Moutarde, technique aujourd'hui Michel Bézikian et Olivier Riotor, Antoine Chaot, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert, c'est l'équipe de La Basse J'y suis. Le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37. Demain, on retourne, on reste à Bicécéro et on parlera plus précisément des implications françaises, notamment avec un témoignage tout à fait étonnant qui avait été recueilli précisément par notre consoeur lors de Vulpian de France Culture. J'ai dit le numéro du répondeur, mais vous le saviez déjà, c'est le 01 56 40 37 37 et le mail daniel.mermet@radiofrance.com. Dans quelques secondes de pub, vous retrouvez Charivari avec Frédéric Bonneau et nous, c'est demain 17h. Salut.